Toujours un plaisir d'être parmi vous avec mon épouse. Ça nous arrive deux, trois fois dans l'année, parfois moins, parfois plus. Et chaque fois, je vois des têtes nouvelles. Alors, nous sommes amis, nous a-t-il dit. Donc, sans se connaître, nous sommes amis. C'est merveilleux. Et nous voulons ce matin, justement aussi, ouvrir la parole de Dieu, afin de voir peut-être, et j'aimerais partager surtout avec vous quelques pensées qui datent déjà de quelques années, mais qui, je pense, peuvent faire du bien à chacun d'entre nous. Et nous lisons cela dans un texte que vous connaissez, j'allais dire, presque par cœur, parce que vous avez peut-être, malheureusement, déjà entendu des prédications là-dessus. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, vos smartphones, vos iPhones, enfin ce que vous voulez, pour suivre ce texte dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 15, nous en lirons les versets 11 à 32, une parabole fort connue. Je lis dans la version NBS pour ceux que ça intéresse. Luc, donc, chapitre 15, versets 11 à 32. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays. Il envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir, j'irai chez mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras. Engraissez et abattez-le, pardon. Mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Et ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père, « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Et quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as abattu le veau engraissé. » Le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Cette parabole très connue, vous en conviendrez, est parfois appelée dans nos sous-titres bibliques non inspirés, ne l'oublions pas, la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas? Et lorsqu'on en parle, on pense quasi exclusivement à ce fils qui a pris tout son héritage et qui l'a dilapidé avec des prostituées. Alors il peut s'immiscer dans nos pensées que, en tout cas, des trois personnages de cette parabole, le fils cadet est évidemment à nos yeux celui qui a le plus péché. Il a quitté sa famille ou son église pour aller vivre une vie de débauche. Rendez-vous compte, quel affreux personnage, quel grave péché, n'est-ce pas? Or, cette histoire, en définitive, ne nous parle pas que de ce fils perdu. Il y a dans cette histoire un père et ses deux fils. Et quand le cadet rentre chez lui, j'allais dire l'oreille basse, il est, à sa grande surprise, accueilli à bras ouverts par son père. Cela déplaît fortement au fils aîné, qui se met en colère. À la fin de l'histoire, le père l'appelle à venir accueillir son frère cadet et à lui pardonner. Jésus n'a pas intitulé son récit « Parabole du fils prodigue ». Mais il a commencé par ces mots. Un homme avait deux fils. Ce récit a donc pour thème l'aîné et son cadet, de même que le père, autant que ses fils. Et vu ce que dit Jésus du fils aîné, il serait peut-être plus juste de parler des deux fils perdus. Le terme prodigue ne signifie pas, comme beaucoup le pensent, rebelle. Mais d'après le dictionnaire Hachette, c'est celui qui fait des dépenses disproportionnées. Une personne prodigue dilapide jusqu'au dernier sou. Ce terme décrit bien deux des trois personnages de cette histoire. Lesquels, à votre avis ? Bien sûr, cela concerne tout d'abord le fils cadet, n'est-ce pas, qui, on le sait, a tout dilapidé. Mais cela concerne aussi, bien sûr, le père qui accueille son fils repentant de manière disproportionnée. Il ne lui dit pas « te voilà ici, toi, hein », en l'attendant sur le pas de la porte, comme il en aurait eu le droit. Ici, le Père représente le Père céleste que Jésus connaissait si bien. Paul écrit d'ailleurs en 2 Corinthiens 5, verset 19, « Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. » Jésus nous décrit un Dieu extrêmement généreux, extrêmement prodigue envers nous, ses enfants. Sa grâce indescriptible est notre plus grand espoir. C'est l'expérience qui change, n'est-ce pas, toute notre vie. Mais avant d'aller plus loin dans cette parabole, juste un rappel du contexte important dans lequel elle est dite. Au verset premier de l'Évangile de Luc, au chapitre 15, il est dit « tous s'approchaient de Jésus pour l'écouter ». Dans ces « tous », il y avait tout d'abord les collecteurs d'impôts. Les pécheurs constituaient ainsi un premier personnage tonnes que l'on pourrait assimiler au fils cadet. En effet, il n'observe rien de tout ce qui est religieux, et Dieu, j'allais dire, il s'en fiche complètement. Le deuxième groupe d'auditeurs, c'est par rapport est constitué par les pharisiens et les spécialistes de la loi, représentés ici peut-être par le fils aîné. Ah, ils suivent scrupuleusement la loi, la morale traditionnelle. Ils étudient les Écritures et tâchent d'y obéir. Ils prient assidûment. Et Jésus, nous le savons, attirait à lui de plus en plus de cadets, de ses pécheurs, ceux qui avaient le don d'irriter passablement les pharisiens et les scribes. Ils mangent avec les pécheurs et les gens de mauvaise vie, disait-il. Parabole veut attirer l'attention particulièrement aussi sur l'âme du fils aîné. Au cours des siècles, on entend ce texte, lorsque l'on regarde un peu divers ouvrages, la plupart des églises ont presque exclusivement insisté, n'est-ce pas, sur la manière dont le père accueille son jeune fils repentant à bras ouverts. C'est vrai d'ailleurs. On peut alors imaginer, bien sûr, ce fils rebelle. Et on apprend ainsi d'ailleurs que Jésus nous aimera toujours et nous accueillera toujours, quoi qu'on ait fait. Cela est vrai d'une certaine manière. Mais réagir uniquement ainsi par rapport à ça, cette histoire n'est pas avant tout destinée qu'aux pécheurs rebelles, mais bel et bien aux gens religieux qui font tout ce que la Bible demande. Jésus veut leur montrer leur aveuglement, leur étroitesse d'esprit et leur propre justice. Cette histoire révèle à la fois le caractère destructeur de l'égocentrisme uniquement, l'attitude moraliste du frère aîné. Il y a ta frère cadet, que ce soit dans la société, dans les familles, voire même dans nos églises. Le Benjamin s'en va, né lui, il est présent, il rentre dans le moule, pas un mot plus haut que l'autre, obéissant jusqu'au bout et sans le savoir peut-être, se pense au fond de lui-même tellement plus juste que ce cadet qui a disparu. Dans cette histoire, il y a donc deux fils perdus. Alors vous l'avez peut-être compris, j'aimerais plus spécialement m'attarder sur le fils aîné. Verset 29, « Voilà tant d'années que je suis à ton service. » Le fils aîné représente bien le conformisme moral dans lequel beaucoup de gens vivent. À l'époque de Jésus, les pharisiens croyaient que s'ils faisaient partie du peuple de Dieu, ils recevraient sa bénédiction en obéissant strictement à la Bible et en faisant passer la volonté de Dieu et les normes sociales avant même leur épanouissement personnel. Voie qu'avait choisi le fils cadet. Ah, bien sûr, ils peuvent chuter de temps en temps, mais si leurs regrets sont sincères, ils seront jugés favorablement. Il fallait toujours qu'ils se montrent à la hauteur. On peut noter que parfois, certaines personnes combinent ces deux manières d'être. Il y a des frères aînés à l'aspect traditionnel, soit La réalité selon Jésus est que les deux fils sont perdus. En effet, tous deux sont coupés du Père. Le Père est obligé de sortir pour inviter chacun d'eux à la fête de son amour. La conclusion de cette histoire est d'ailleurs inimaginable. Jésus laisse délibérément le frère aîné dans son état d'éloignement. Et celui qui aimait les prostituées est sauvé. Tandis que celui qui fit les droits, n'est-ce pas, reste perdu. Et les pharisiens n'en revenaient pas d'une telle conclusion. Rendez-vous compte. Car elle est à l'opposé de tout ce qu'on leur a toujours enseigné. Et Jésus va aller encore plus loin, justement. Il va encore les choquer beaucoup plus fort. En disant cela, pourquoi, en définitive, le frère aîné n'entre-t-il pas ? Lui-même en donne la raison. Parce qu'il n'a jamais désobéi. Ce ne sont pas ses péchés qui créent une barrière entre son père et lui. C'est l'orgueil qu'il tire de sa moralité exemplaire. C'est sa propre justice. En fait, aucun des deux frères n'aime se soumettre à l'autorité paternelle. Tous deux cherchent à s'en affranchir. En définitive, aucun des fils n'aime le Père pour lui-même. On peut donc se révolter contre le Seigneur et être éloigné de lui en transgressant ses lois, mais aussi en essayant de les respecter scrupuleusement. Le frère aîné est irrité contre son père, car il pense avoir toujours bien fait. Il n'a pas compris le sens profond du péché. Il n'a pas compris que le Seigneur nous est redevable de rien du tout. Que si nous sommes sauvés, ce n'est que par pure grâce. Le frère aîné pensait que son obéissance lui donnait des droits par rapport au père et qu'il pouvait l'influencer dans certains domaines de sa vie même. Il obéit dans l'espoir d'un bénéfice. Il ne se soumet pas en lui dans le désir de le découvrir, de lui ressembler, de l'aimer, de le connaître, de se réjouir en lui. Il peut se passer en définitive d'un Jésus Seigneur et Sauveur, tout comme le jeune frère qui affirme ne pas croire en Dieu et faire ce qu'il veut. Jésus redéfinit bien ici ce qu'est le péché. Ce n'est pas uniquement la transgression d'une liste de règles ou de lois, mais c'est surtout de se mettre à la place de Dieu, seul Sauveur, seul Seigneur, et seul juge. Les deux fils de la parabole cherchent à supplanter l'autorité du Père dans leur vie. Alors, tous deux ont tort. Et tous deux sont aimés. Pour le fils cadet, la parabole est claire et explicite et je ne reviendrai pas. Pour le fils aîné, on s'aperçoit que bien qu'en restant chez son père, il est plus éloigné de lui que son jeune frère, car il n'a pas véritablement conscience de son état. Et si on le lui disait, il en serait choqué. « Comment osez-vous parler ainsi ?» disent les pharisiens. On pourrait répondre, « Ouais, je suis à l'église dès l'ouverture des portes, n'est-ce pas ?» Et Jésus répond, « Ce n'est pas cela qui compte. » Un tel enseignement de Jésus ne pouvait sans aucun doute irriter encore plus les pharisiens et les scribes. Verset 28, « Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Les trois paraboles de ce chapitre 15 nous montrent que Jésus est venu, comme Luc lui-même le dit au chapitre 19, verset 10, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et par cette parabole, Jésus veut nous aider à mieux comprendre ce qu'est le péché. Et il veut nous aider à l'identifier. Le fils aîné se met en colère et prononce des mots pleins d'amertume et de rancœur. Un des signes de cette mentalité, peut-être, de frère aîné, c'est que lorsque la vie ne va pas comme nous le voudrions, nous ne sommes pas seulement attristés, mais nous sommes parfois furieux et amers. Nous considérons trop facilement que Dieu doit nous aplanir notre chemin, n'est-ce pas? Qu'arrive-t-il dans notre existence quand tout va mal? Si nous sommes persuadés d'avoir respecté les normes morales, nous sommes fâchés contre Dieu. Nous estimons ne pas avoir mérité ce qui nous arrive. Nous pensons que notre obéissance morale doit nous rapporter quelque chose. Cela ressemble à une forme d'égoïsme intéressé et non pas à une fidélité à Dieu fondée sur l'amour. Elisabeth Elliot raconte une histoire apocryphe. Apocryphe, ça veut dire qu'elle n'est pas dans la Bible. Hein, on est bien d'accord. Mais qu'elle emprunte des personnages bibliques. Elle disait ceci. Un jour, Jésus dit à ses disciples, « Je voudrais que vous portiez une pierre pour moi. » Sans leur fournir la moindre explication. Les disciples alors cherchent autour d'eux une pierre à emporter. Et Pierre, elle fait allusion à l'apôtre, avec son esprit, n'est-ce pas, très pratique, s'affaire à trouver la plus petite possible. Après tout, Jésus n'a précisé ni le poids ni la taille. Il la glisse dans sa poche et Jésus dit « Suivez-moi ». Il se met en route. Vers midi, il ordonne à tout le monde de s'asseoir. Il lève les mains et toutes les pierres se transforment en pain. Il déclare alors, il est temps de manger. Il suffit de quelques secondes à Pierre pour avaler son maigre repas. Puis Jésus ordonne aux disciples de se relever. Il dit à nouveau, « Je voudrais que vous portiez une pierre pour moi. » Cette fois, Pierre pense, « Bon, maintenant j'ai compris. » Choisit un bon gros caillou, hein, à la limite du portable, il se le met sur son dos, titube un petit peu, et il se dit vivement le prochain repas. Et Jésus déclare, suivez-moi. Et il reprend la route. Pierre a un peu de la peine à suivre, hein. Le soir venu, Jésus conduit ses disciples au bord d'une rivière et il leur ordonne, « Maintenant, jetez tous votre pierre dans l'eau. » Pierre et les autres le regardent avec stupéfaction. Et Jésus leur demande alors en soupirant, « Ne vous souvenez-vous pas de ce que je vous ai demandé de faire ? Pour qui avez-vous porté la pierre ?» Comme Pierre, dans cette histoire, les frères aînés s'attendent à ce que leur bonté soit rentable. Et si ce n'est pas le cas, alors ils sont pour le moins perplexes, voire furieux. D'autres personnes, n'est-ce pas, dans la vie s'en sortent mieux que nous. Et nous pensons, pourquoi elle et pas moi, après tout ce que j'ai fait? Cette irritation peut nous donner un grand sentiment de supériorité. Le frère aîné pense alors que sa moralité est bien meilleure, n'est-ce pas, que celle de son frère, coureur de jupons. Mais que dit le Père au Fils aîné? Verset 31. Mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. Nous avons tous besoin de mesurer l'amour de Dieu pour nous. Voyez comment le Père va à la rencontre de chaque fils. Pour le fils rebelle, il ne l'attend pas sur le port de la porte en grommelant, ah ben voilà ce garnement, j'espère qu'après tout ce qu'il a fait, il va se tenir à carreau maintenant, non? Non, c'est pas ça, pas du tout. Il court devant de lui, l'embrasse avant même que le fils ait eu le temps de s'exprimer et d'exprimer ses regrets. C'est l'affection paternelle qui pousse le fils ensuite à exprimer ses remords. Pour le fils aîné, c'est presque plus difficile. Le père le supplie de venir à la fête, lui qui est furieux et plein de rancœur. Les personnes les plus religieuses et les plus morales ont tout autant besoin de la grâce divine que les autres, car elles sont aussi perdues. Il y a donc de l'espoir dans cette parabole, même pour les pharisiens qui sont en train de l'écouter. Dans cet auditoire de Jésus, n'oublions pas, il y a ces chefs religieux là qui cherchent à le livrer aux autorités romaines. Et Jésus ne les condamne pas à ce moment-là. Il leur offre un dernier appel du Père, sur lequel se finit cette parabole. On s'aperçoit alors que le frère aîné, pardon, symbolisé par les pharisiens, n'est pas condamné sans appel. Mais il est affectueusement prié de renoncer à sa colère et à sa propre justice. Le Seigneur s'adresse à ses ennemis, ses pires ennemis, avec amour. Il ne traite pas les pharisiens par une attitude pharisaïque, comme on dirait, ni les propres justes avec une attitude arrogante. C'est peut-être là pour nous un exemple à suivre, n'est-ce pas? Nous trouvons le Seigneur parce qu'il a commencé à nous chercher. Et il le fait pour chacun de nous de diverses manières. Parfois, il nous serre contre son cœur, comme le fils cadet. D'autres fois, il plaide doucement et patiemment avec nous pour que ne nous obstinions pas à lui résister, comme le fils aîné. Alors, de quoi avons-nous besoin? Le fils cadet aurait pu dresser une liste de péchés incroyables et très précises qu'il pouvait apporter à son père. S'en repentir très profondément et sincèrement. Par contre, pour le fils aîné, c'est peut-être plus compliqué. Ah, il avait bien parfois des remords, n'est-ce pas, et des regrets, car comme l'on dit facilement, nobody is perfect, hein, personne n'est parfait, n'est-ce pas? Jésus n'a jamais soutenu d'ailleurs que quiconque d'autre que lui puisse être parfait. Toutefois, Jésus lui-même ne contredit pas tout le bien ou les bonnes œuvres que met en avant le fils aîné. Mais ce qui retient le frère aîné de prendre part à la fête du salut, c'est l'orgueil qu'il tire de ses bonnes œuvres. Son problème, c'est sa propre justice, sa manière de se servir de sa rectitude morale pour rendre Dieu et les autres redevables à son égard. Nous avons, je crois, donc besoin d'apprendre à demander pardon pour le péché que nous dissimulons sous tous les autres péchés plus visibles, peut-être, et sous toute notre propre justice, qui recèle en définitive le désir d'être notre propre Seigneur et Sauveur. nous devons nous repentir autant du mal que nous faisons que du bien que nous accomplissons, afin que nos bonnes œuvres ne prennent pas le pas sur la grâce seule qui nous sauve. Quand nous aurons bien compris que l'antidote à être mauvais n'est pas seulement être bon, alors je crois nous aurons franchi un grand pas. Cette transformation radicale, celle que le Seigneur a commencée à chacun de nous lors de la nouvelle naissance, elle nous amène à aller toujours plus loin. Alors de qui avons-nous besoin ? C'est là un point fondamental sur lequel j'aimerais conclure. Luc nous apprend, au début du chapitre, que Jésus a raconté aux pharisiens qui l'écoutaient, en fait, trois paraboles. Vous connaissez ces textes. Celle de la brebis perdue et retrouvée qui se termine par « Réjouissez-vous avec moi ». Puis celle de la pièce perdue et retrouvée qui se termine également par « Réjouissez-vous avec moi ». Et enfin, celle des deux fils comporte également une réjouissance. La similitude est évidente. On retrouve ce qui est perdu. Toutefois, cette troisième parabole se démarque des deux autres de manière flagrante. Dans celle-ci, personne n'est parti à la recherche de ce qui est perdu. Jésus l'a fait exprès, car en associant ces trois paraboles, il nous invite à nous demander qui aurait dû aller chercher le fils perdu. Et Jésus savait très bien ce que Dieu lui-même avait dit au tout début de l'histoire, en Genèse 4, n'est-ce pas, à un certain Caïn, en lui disant qu'il était le gardien de son frère. On raconte une histoire vraie d'un jeune soldat américain disparu pendant la guerre du Vietnam. Sa famille n'avait aucun renseignement par les voies officielles. Et le fils aîné est parti au péril de sa vie pour le retrouver à travers la jungle et les champs de bataille. Il n'a jamais été blessé et tout le monde le respectait à cause de sa recherche dévouée. Et on l'avait surnommé « the brother », le frère. Voilà que l'aîné de la parabole aurait dû faire. Il aurait dû dire au père, je vais aller le chercher et comme il n'a probablement plus d'argent, je le ramènerai à mes frais. Le père avait tout divisé, souvenez-vous. Donc ce qui restait d'héritage était autant au fils aîné qu'au père. Mon enfant, « Tout ce que j'ai est à toi », dit-il au verset 31. Et c'est la stricte vérité. Le rétablissement du jeune frère est gratuit pour lui, mais il coûte un prix considérable à son frère aîné. La clémence et le pardon doivent être gratuits et immérités pour celui qui a mal agi. Autrement, ce n'est plus de la grâce. Mais le pardon coûte toujours à celui qui l'accorde. Or, en plaçant un frère aîné indigne dans cette histoire, Jésus nous invite à en imaginer un bien meilleur, voire parfait. Et nous en avons un. Pas seulement une personne prête à partir à l'étranger pour nous retrouver, non. Mais quelqu'un qui n'hésite pas à descendre du ciel sur la terre. Jésus-Christ est ce frère aîné parfait. Il n'a pas hésité à payer le prix fort, le prix infini de sa vie pour nous conduire dans la famille de Dieu. Car notre dette est considérable. Que nous soyons frères aînés ou plus jeunes, nous sommes tous en rébellion contre le Père. Nous méritions l'exclusion et le rejet. Et cette parabole insiste sur le fait que le pardon a toujours un prix. Quelqu'un doit payer. Notre véritable frère aîné a payé notre dette sur la croix à notre place. Là, il a été humilié, dépouillé de tout, traité en paria. Il a bu la coupe de la justice éternelle pour que nous puissions goûter à la coupe de la joie de Dieu. Et tout cela par pure grâce. Pense à ce verset 7 d'Hébreux 3. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas, comme le frère aîné. Comment ne pas répondre alors avec joie et reconnaissance à ce Père si prodigue, c'est-à-dire qui a dépensé sans compter pour nous au point de donner son Fils, son unique, pour nous sauver. Que nos cœurs soient pleins de reconnaissance envers notre Dieu qui nous a donné un frère aîné qui est venu nous chercher et nous sauver. Quelle grâce, quelle bénédiction, quel amour. Il l'a manifesté pour chacun de nous. Amen. Je propose quelques instants de réflexion. Merci Seigneur pour ta parole qui nous rappelle encore ce matin combien tu nous as tant aimés. Qui que nous soyons et quoi que nous ayons fait, tu es celui qui est venu jusqu'à nous, qui a fait le premier pas. Et nos cœurs veulent ainsi déborder de joie et de reconnaissance devant tant d'amour, tant de fidélité, parce que tu es ce Dieu prodigue. Il ne manque pas au quotidien aux besoins de chacun de nous. Merci de nous pardonner tout à nouveau. Merci de nous relever si cela est nécessaire. Merci aussi de fortifier nos pas pour que nous continuions à marcher les uns et les autres ici-bas sur le chemin que tu veux nous voir suivre. Que nos vies, Seigneur, soient à ta gloire et que ton nom soit béni au travers de chacun de nous et de ton Église. Amen.